Bonjour, André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Bob Moran contre tout chacal d'aventurier, contre tout guerrier. Après avoir suivi ses aventures dans la vallée infernale, la galère engloutie et l'ombre jaune, nous le retrouvons aujourd'hui dans la série fantastique des romans d'Henri Verne avec les chasseurs de dinosaures. Bonjour Philippe Merlan.
Bonjour.
Et bonjour Pierre Rougeau.
Bonjour André.
Merci d'être avec nous pour les lectures des extraits des chasseurs de dinosaures. Mais d'abord, nous retrouvons Henri Verne pour la suite et fin de l'interview que nous avons commencé lors de nos deux précédentes émissions. Bonjour Henri Verne, parlez-nous des personnages féminins de vos romans.
Oui, bonjour André. Ben, j'ai touché l'inconscient aussi avec Miss Ilang Ilang dans un autre domaine, l'érotisme caché. J'ai découvert dans un bouquin ce nom de parfum qui est celui d'une fleur. Alors, nom magnifique pour un personnage féminin. Je la décris d'ailleurs avec sensualité et mystère, car elle représente une incarnation du mal féminin. Telle Ève, très belle, qui a séduit le pauvre Adam. Remarquez, il n'avait pas trop le choix non plus. On m'a toujours demandé s'il y avait un rapport entre Madame Lou. Non, Madame Lou était chinoise, Miss Ilang Ilang est eurasienne. Pas de sexe dans mes romans. Uniquement un zeste d'érotisme. Toutes mes héroïnes ont toujours eu des rôles très libérés. Sophia Paramount, très belle, garçon manqué, championne de karaté. Elle est reporter et va un peu partout. Elle casse la figure aux méchants. Elle vit des aventures extraordinaires. La nièce de l'ombre jaune est aussi délurée. Elle évolue dans le sillage de son oncle, sachant que c'est un criminel notoire. Mais elle est amoureuse de Bob Moran et n'hésite pas à l'aider contre son oncle. Bob Moran ne se marie pas. Il doit rester libre. Pour moi, il est certain qu'il a couché avec elle. Enfin, à sa place, je n'aurais pas hésité une seconde. Tout cela est subodoré dans ses aventures. À l'époque, on me reprochait de la violence dans mes romans. C'est un plus, j'avais mis du sexe. Néanmoins, j'étais le seul parmi les écrivains pour la jeunesse à avoir mis des femmes pulpeuses.
Vos romans sont-ils autobiographiques alors? Et comment les écrivez-vous?
Dans les Bob Moran, il y a des trucs de ma vie. Des petits événements que j'ai vécu, oui. Mais je serais incapable de vous les citer tous. Mon passé d'espion m'a très peu servi. C'est pas de l'espionnage à la 007. En général, je travaille à la main. Oui, ni ordinateur, ni machine à écrire. La plume suit servilement votre pensée. Je ne connais pas la fin de l'histoire au moment d'écrire le premier mot. Je sais seulement que ça va bien se terminer, forcément, puisque Bob Moran doit revenir dans le roman suivant. J'ai eu le premier lecteur de ses aventures. Alors ça me laisse une constante possibilité d'invention. Avec un plan, je ne m'amuserai plus, puisque quand le plan est écrit, le roman est fini. Mon style littéraire est adapté au sujet, en l'occurrence à l'aventure. Simple et imagé. Je ne peux pas me permettre de me lancer dans des phrases alambiquées. Il faut que ça bouge. La seule exception, les descriptions sans m'étendre. Elles servent uniquement à établir le cadre dans lequel se déroulera l'aventure. À dresser une toile de fond. Ce n'est jamais le lieu qui fait l'action, mais les personnages. Au théâtre, ce sont les acteurs qui font le spectacle, pas le décor. Alors j'attache plus d'importance au dialogue qui apporte le côté humain.
Alors, justement, comment choisissez-vous les décors de vos romans?
Ben, pour les aventures de Bob Moran, j'ai choisi comme cadre un pays que je connais bien ou que j'ai envie de voir. Bah, se documenter aujourd'hui n'est pas difficile. Hein. Les guides achètent, les guides du routard constituent quand même une bonne base. Même pour parler des pays que j'ai visités, j'ai dû me documenter à mon retour. Même si ça se passe à Bruxelles, que je connais très bien. Mes destinations de prédilection pour Bob Moran sont l'Amérique du Sud, les Antilles, Israël, Londres. Sans toucher à la politique, hein, car c'est trop pointu et trop subjectif, bien que je m'intéresse à l'actualité mondiale. J'avais suivi une certaine tradition du roman d'aventure, mais il m'est apparu évident que je risquais de tourner en rond. C'est pourquoi il est parti dans toutes sortes d'aventures, y compris dans le temps. Je ne pouvais éternellement l'envoyer en Amazonie ni dans certaines contrées d'Asie. D'où l'apparition du fantastique, thème qui m'est très cher d'ailleurs, et de la science-fiction. De nouveaux horizons s'ouvraient à moi.
Avez-vous fait appel à des collaborateurs pour écrire vos romans ?
Alors, pour ne rien vous cacher, j'ai eu recours à des nègres, pendant une période où je rencontrais des problèmes avec Marabout. Ils écrivaient dans leur coin et me soumettaient un premier jet. Je me rendais compte que je devais tout réécrire, alors finalement, il était plus simple pour moi d'écrire directement le roman.
Et vous êtes-vous imposé certaines contraintes ?
Je ne parlerai pas de contraintes, mais de tabous. Alors, pas de sexe, et une violence raisonnée, raisonnable. Jamais une violence gratuite. Ne pas être trop vulgaire. Bob Moran doit avoir un comportement irréprochable. Il ne peut pas voler, il ne peut pas tuer gratuitement. Finalement, tout ce qui était interdit par la loi et par la morale judéo-chrétienne. Alors il ne boit pas, il ne fume pas, il ne jure pas. Personnage parfait, trop clean. Beaucoup de filles d'ailleurs me disaient préférer Bill Valentine. Mais moi, je l'aime bien pour son indépendance, son dilettantisme, sa curiosité, son goût pour le bizarre, son franc-parler aussi.
Et la bande dessinée ?
Alors, le dessin est arrivé très tôt chez Bob Moran, puisque chaque roman contenait déjà des illustrations. J'écrivais des histoires dessinées pour femmes d'aujourd'hui à la fin des années 50. La directrice de ce magazine m'a demandé « Mais pourquoi ne ferait-on pas Bob Moran en bande dessinée ?»« Pourquoi pas ?» Alors, en mai 59, Bob Moran devient le héros de BD que je scénarise. Le premier de la série, L'Oiseau de Feu, c'est Dino Attanasio, fut le premier. Il faisait déjà les illustrations intérieures des romans. J'ai changé au bout du sixième tome, il y eut fort temps. Notre collaboration s'est arrêtée parce qu'il est parti aux États-Unis. Puis est arrivé William Wance, qui a fait de l'excellent travail jusqu'au jour où il m'a dit qu'il avait envie d'écrire ses histoires lui-même. C'est son beau-frère Coria qui l'a remplacé. Pour passer de l'écriture d'un roman à celui d'un scénario de BD, c'est très simple. Je découpe les romans case par case en réécrivant les dialogues. Ce qui se passe par la suite m'échappe totalement, le dessinateur est totalement libre. Les images que j'ai en tête ne correspondaient pas forcément à l'imaginaire de l'illustrateur. On parle plus aujourd'hui de Bob Moran en tant que héros de BD que de héros de roman.
Et Bob Moran au cinéma, à la télévision ?
Oui, en 1960, la société de production Belgavox m'avait demandé les droits pour adapter au cinéma L'Espion au sans visage. Jacques Santi, le futur Tanguy dans Les Chevaliers du Fiel, joua Bob Moran. Ce film est passé en avant-première à l'Eldorado à Bruxelles. Il ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Il y eut un incendie chez Belgavox. Tout a été brûlé, y compris le négatif du film. Plus tard, le producteur de ce film a cédé les droits audiovisuels pour la série télé. Oui, c'est le fils du directeur des productions d'Europe numéro 1 qui lisait Bob Moran et qui lui a dit « Papa, ça serait bien de voir Bob Moran à la télévision ». On m'a contacté, je n'ai eu aucun pouvoir sur cette série, ni le choix des comédiens, ni la possibilité d'écrire les scénarios. Je suis tout de même satisfait de cette série télé. J'assistais à plusieurs tournages dans le midi. Je me souviens surtout de l'épisode « Le temple des crocodiles » au Beau-de-Provence, où ils avaient reconstruit un temple égyptien. Le docteur correspondait bien à mes personnages. Claude Titre, physiquement, était bien l'idée qu'on se faisait de Bob Moran. Billy Kearns, s'il était un peu court de taille pour le rôle de Bill Valentine, il en avait toutes les caractéristiques d'amour et de légèreté. D'ailleurs, cette série a eu une grosse influence sur Bob Moran. Ben, il s'adressait à un nouveau public qui ne connaissait pas mon personnage. Hein. Tout comme les dessins animés produits par une firme de Montréal. J'avais vendu mes droits d'exploitation. Comme pour la série télé, je n'ai jamais collaboré sur aucun scénario. Sur un pur plan de respect de l'œuvre initiale, je dirais que ce Bob Moran animé n'a qu'un lointain rapport avec le Bob Moran, le vrai. Par contre, ce qui m'a le plus fâché, c'est une BD qui parodiait mes personnages. Bob Marrone. Et j'ai trouvé ça ridicule. Les dessins d'un coureur étaient plaisants, mais le scénario de Yann m'a moins emballé. À cause de la pseudo-homosexualité de Bob et de Bill. En ce qui concerne la chanson « L'aventurier » du groupe Indochine, je n'étais pas au courant de ce projet et j'ai été étonné de le découvrir à la télé. Cette chanson reprend tout de même un grand nombre de titres de Bob Marrone. On aurait au moins pu me prévenir. Bah, j'ai refusé de faire un procès car je ne voulais pas aller à l'encontre d'un petit groupe de jeunes débutants et qui faisaient de leur mieux.
Avez-vous, à l'instar d'Agatha Christie, qui a fait mourir Hercule Poirot, songé à faire disparaître votre héros?
Je n'ai jamais eu l'intention délibérément de tuer Bob Marrone. Hergé n'a pas tué Tintin. Hein. Ce que je souhaite, c'est qu'il me survive, qu'il vive de nouvelles aventures. Bob Marrone n'est pas comme Tintin, à tendance nazi et antisémite.
Et que représente Bob Marrone pour vous?
Il m'a rendu heureux, quelquefois malheureux parce qu'il prenait trop de mon temps. Mais dans l'ensemble, c'est positif. Hein. Il m'a déçu le jour où j'avais envie d'écrire autre chose que ses aventures et que je me suis retrouvé dans l'obligation de me consacrer à lui. Bah, il fait partie de mon destin. Hein. Il m'a aidé tout d'abord à vivre pas seulement d'un point de vue financier, mais grâce à lui, j'ai pu rencontrer une foule de gens. Je souhaite qu'il soit lu le plus longtemps possible. Je souhaite avoir des successeurs qui reprendront ses aventures en le respectant, dans la mesure du possible.
Merci Henri Verne et bon voyage pour votre retour dans l'au-delà. Merci Philippe de nous avoir fait revivre le père de Bob Marrone.
Théâtralité, l'actualité du théâtre amateur.
Les chasseurs de dinosaures est un roman fantastique d'Henri Verne, publié en 1957. Son 20e roman de la série Bob Marrone, avec la machine à voyager dans le temps, qui projette notre héros et ses amis dans l'ère du Crétacé. L'histoire commence à Paris. Bob Marrone, Bill Ballantyne, Aristide Clérambard sont prévenus par son épouse Carlotta que leur ami Frank Reeves a disparu. Les trois compères se rendent en Californie, dernier endroit où était vu Frank. Accompagné par l'agent du FBI Michael Spring, il découvre dans un hangar du professeur Hunter une étrange machine. Un homme ensanglanté gît dans la machine. Bill Ballantyne, par mégarde, fait démarrer l'engin. Voici le premier extrait du chapitre numéro 4, lu par Pierre.
Marrone avait l'impression de tomber depuis des années, des siècles, des millénaires, et cela en quelques secondes à peine. Puis, lentement, la clarté dans laquelle ses compagnons et lui baignaient s'atténua. Les vibrations se ralentirent, et au fur et à mesure, le décor du cylindre réapparaissait. Flou tout d'abord, ensuite de plus en plus net. Quand tout fut enfin redevenu normal, Marrone, Clérambard, Ballantyne et Michael Spring échangèrent des regards inquiets. « Que s'est-il passé ?» interrogea le J-Man. « J'ai appuyé sur ce bouton rouge, » expliqua Bill Ballantyne, en désignant le tableau de commande sur lequel, parmi les cadrans et manettes, se distinguaient deux épais poussoirs, l'un rouge, l'autre bleu. « Vous auriez dû éviter de toucher à quoi que ce soit, Bill, » fit Marrone. « Nous ne connaissons rien de cette étrange machine et il nous faut être prudents. » Le géant secoua ses larges épaules. « Pourquoi nous casser la tête en pensant à ce qui pourrait arriver ?»« Commandant, » fit-il. « Ce ne sont pas quelques vibrations qui... » Une exclamation poussée par Clérambert interrompt l'Écossais. « Là, regardez !» L'archéologue tendait le bras vers l'un des hublots, derrière lequel... Au lieu des murs du hangar, on apercevait maintenant une vaste étendue, libre, couverte de végétation. Déjà, Bob et ses amis s'étaient précipités, chacun vers un hublot. Le paysage s'offrant à eux leur était inconnu. C'était une savane à l'herbe courte, où poussaient des arbres qui parurent inconnus à Marrone, mais qui, pour la plupart, devaient être d'essence résineuse ou voisins des palmiers. Par endroits, on apercevait d'épais bouquetaux d'arbustes couverts de fleurs rouges. Tout près, sur la route, on distinguait un groupe de hautes collines dont plusieurs s'empanachaient de fumée. « Des volcans !» fit Michael Spring. « Le cylindre doit avoir bougé !» Le Gémène s'interrompit soudain et dit d'une voix blanche « Si je ne m'abuse, il ne doit pas y avoir de volcan en activité aux États-Unis. Mais où sommes-nous donc ? Mais où sommes-nous donc ?»« Oui, » fit Clarambar, « où sommes-nous ? Et avez-vous une idée quelconque, Bob ?» Moran hocha la tête. « Comment pourrais-je vous répondre ? » fit-il. « Je ne suis pas sorcier. Le mieux que nous ayons à faire, c'est de sortir de cette maudite machine pour avoir une vue d'ensemble du paysage. » De cette façon, nous pourrons mieux juger. Et si cet engin nous avait conduit sur une autre planète, dit Ballantyne, si l'air au dehors était irrespirable? Bob eut un petit rire qui sonnait faux. Dans ce cas, le voyage aurait été rapide. Quelques secondes à peine. Quelques secondes, fit Bill avec une grimace. Personnellement, j'ai eu l'impression que cela durait des siècles. « Moi de même, » dit Clorambert. « Et à moi aussi, cela a paru interminable, » déclara à son tour Michael Spring. « Ce fut une impression seulement, » tenta d'expliquer Moran. « Ces vibrations, de plus en plus rapides, étaient extrêmement désagréables. Et aussi cette sensation de chute, cela nous a fait trouver le temps long. Tenez, regardez, tous quatre, nous nous sommes rasés ce matin. Et nous avons encore les joues lisses. » Si ce voyage avait duré aussi longtemps que vous le supposez, nous aurions de fameuses barbes. Et je vous fais remarquer que le célèbre bouc du professeur Clarambar n'a même pas poussé d'un demi-centimètre. Malgré ces constatations, Moran ne se sentait cependant pas rassuré, car à lui aussi la chute avait semblé se prolonger durant une éternité. Il chassa pourtant son appréhension pour dire encore « Soyez sans crainte, nous n'en manquerons pas d'air. Cette végétation au dehors nous semble peut-être inconnue, mais tout dans le respect me dit cependant qu'il s'agit là de la plante de notre terre et qu'elles ont besoin d'air pour vivre. De toute façon, nous ne pouvons demeurer éternellement enfermés dans cette prison de tôle. » Coupant court à la discussion, Bob se dirigea vers la porte et en fit jouer le volant de fermeture. « J'aurais cependant juré que cette porte était demeurée ouverte, » dit Michael Spring. « Ne l'avez-vous pas entendu claquer à l'instant précis où les vibrations ont commencé à se faire sentir ?» dit Bob. « Sans doute existe-t-il un quelconque système de sécurité qui l'a fait se refermer automatiquement dès que l'engin se met en marche. » Il poussa le battant et sauta au dehors. Quelques secondes plus tard, les quatre hommes foulaient une herbe épaisse et grasse. Bill Ballantyne aspira une large bouffée d'air. « Vous avez raison, commandant, dit-il. Cet air est parfaitement respirable. Nous devons donc toujours nous trouver sur la Terre. » « Pas en Californie, en tout cas, remarqua Michael Spring. Je ne reconnais pas le paysage et, en outre, il fait une chaleur étouffante. On se croirait sous l'équateur. » « Ces plantes ont d'ailleurs un aspect nettement tropical. » « C'est exact, » approuva Moran. « Bien que je n'en reconnaisse aucune, à part peut-être ces monstrueuses fougères arborescentes, je... » Un sourd grognement lui coupa la parole, et la terre trembla légèrement. Les quatre hommes tournèrent leur regard vers les volcans, dont deux vomissaient à présent de longs jets de flammes. « Et voilà un petit feu d'artifice pour nous souhaiter la bienvenue, » dit Ballantyne. Ni le colosse, ni aucun de ses compagnons ne semblait cependant disposé à plaisanter. Autour d'eux, ils devinaient une hostilité latente comme une menace prête à se matérialiser soudain. Elle éclata à la façon d'une bulle de savon, quand Bill Ballantyne tendit le bras en direction d'un bouquet d'arbres en disant « Tiens, nous avons de la visite !» De derrière le boquetot, un être cauchemardesque venait d'apparaître. Sa silhouette faisait songer à celle du kangourou. Mais d'un kangourou qui aurait mesuré 10 mètres de pointe du museau au bout de la queue. « Il vient vers nous !» cria Michael Spring.
Les quatre amis se retrouvent donc propulsés dans le Crétacé, à environ 100 millions d'années dans le passé. Frank Reeves, le professeur Hunter et deux autres personnes se sont en effet rendus à l'ère secondaire afin d'y chasser des dinosaures. Les quatre amis sont attaqués par un tyrannosaure et constatent assez rapidement qu'ils n'ont pas d'équipement adéquat pour survivre longtemps dans les forêts touffues du secondaire. Ils découvrent sur le sol un paquet de cigarettes ayant appartenu à Frank, prouvant que celui-ci était bien là quelque temps auparavant. Bob Morane propose à ses collègues de retourner au XXe siècle et de revenir le rejoindre muni de l'équipement adéquat. Pendant ce temps, Bob fera des recherches sommaires dans les environs pour déterminer s'il peut retrouver les membres de la première équipe. Tandis que Bill, Clérambard et Spring repartent au XXe siècle, Bob explore les environs et assiste aux éruptions volcaniques et aux combats que se livrent les tyrannosaures, les stégosaures, les tricératops, les iguanodons et autres ptérodactyles. Il pousse ses recherches de plus en plus loin. En fin de compte, après avoir entendu un coup de feu, il retrouve Steve Marshall, compagnon de Frank Reeves, en train d'agoniser. L'homme a été attaqué par des dinosaures et a eu le dessous. Avant d'expirer, il indique à Bob où se trouvent les autres hommes. Bob retourne sur le lieu d'arrivée de la machine à voyager dans le temps et laisse un message nettement visible à l'attention de ses amis, leur indiquant la direction approximative de son futur parcours. Il se dirige dans la direction indiquée par Marshall et se fait attaquer par des ptérodactyles. Voici un deuxième extrait du chapitre 8.
Il courait de toute la vitesse de ses jambes, mais ses bottes le gênaient et souvent il vissait et manquait de s'abattre. Derrière lui, les claquements d'ailes et les cris se rapprochaient sans cesse. Il tourna la tête et devina qu'il ne pourrait atteindre le couvert avant d'être rejoint. Déjà, les premiers ptérodactyles fondaient sur lui, leur terrible bec grand ouvert. En poignant son express par les canons, Bob les balaya à grands revers de crosse. D'autres lézards volants l'entouraient, hurlant, battant des ailes. Ils étaient si nombreux au-dessus de lui qu'ils lui bouchaient toute vue du ciel. À coups de crosse, Bob se fraya un passage à travers cette horde hurlante. À trois reprises, il tomba, et à chaque fois, il sentait plusieurs becs lui fouiller la chair, lui déchirer le cuir chevelu. Proche de la panique, le visage en sang, il comprit qu'il ne pourrait plus résister longtemps à ces assauts furieux. Et soudain, il se souvint que sa carabine n'avait pas été fabriquée pour servir de masque et qu'elle était chargée. Sans épauler, il lâcha ses deux balles dans la masse mouvante des ptérodactyles. Plusieurs d'entre eux furent frappés et pulvérisés par les puissants projectiles. Les autres, effrayés par les détonations, s'égayèrent dans toutes les directions, telle une bande de corbeaux chassés à coups de fronde. Cependant, le cervelle obtuse ne devait pas garder longtemps le souvenir des faits, car ils se regroupèrent presque aussitôt pour fondre à nouveau en direction de l'homme. Morane s'était remis à courir tout en rechargeant son arme. Au fond de lui-même, il pestait de voir ainsi gâcher ses munitions pour de la vermine criarde. C'est alors seulement qu'il songea à son automatique. Il l'arracha de son étui et, tout en continuant à galoper de plus belle, il se tourna à demi et, par-dessus son épaule, tira les 7 balles contenues dans le chargeur. Il eut à nouveau un flottement dans les rangs des oiseaux, flottement que 2 coups de l'express changèrent en déroute. À demi aveuglé par le sang lui coulant dans les yeux, Bob continua à courir vers la lisière de la forêt. Il l'atteignit à un endroit où le sous-bois était composé d'une végétation épineuse. Sans se soucier des épines acérées qui lui griffaient le corps à travers ses vêtements, il se coula entre les branches qui, aussitôt après son passage, se rabattaient derrière lui comme les éléments d'une grille. Là-bas, les ptérodactyles s'étaient encore regroupés, mais l'envergure de leurs ailes les échappait de pénétrer dans le sous-bois. Et au bout d'un moment, après avoir volté dans tous les sens, ils regagnèrent leurs flasques boueuses pour reprendre leur bain de vase, un moment interrompu. Haletant, frissonnant de terreur, rétrospective, Bob Morane se glissa au plus profond des fourrés. Là, il demeura un instant immobile, affalé sur le sol à bout de force. De plus en plus, il se rendait compte des mille dangers de cette nature primitive et inhumaine qui, à chaque instant, semblait prête à l'anéantir. Cependant, comme il n'était point homme à s'attendrir sur son propre sort, il entreprit d'examiner ses blessures. Dans l'ensemble, elles étaient peu profondes et ne semblaient présenter aucun caractère de gravité. Après quelques applications de sulfamide, Bob jugea que des risques d'infection étaient écartés. Tout autour de lui, l'ombre se faisait de plus en plus dense et il jugea que la nuit n'allait guère tarder à tomber. Il était donc inutile de continuer à avancer et, en outre, au plus profond de ces buissons épineux, il jouissait d'une sécurité relative. Sa fatigue était telle, après cette journée fertile en émotions de toutes sortes, qu'il sombra aussitôt dans un profond sommeil.
Bob Moran finit par arriver au campement des aventuriers. Ceux-ci ont trouvé refuge dans une grotte. Sam Gray, l'assistant d'Hunter, est mort. C'est l'homme trouvé ensanglanté à l'intérieur de la machine. Sont restés vivants Hunter, Reeves, qui lui racontent leur aventure depuis leur départ du XXe siècle. Le professeur Hunter explique le fonctionnement de sa machine temporelle. Sur les indications et les injonctions pressantes de Bob, le petit groupe se met en route. Voici un extrait du chapitre 13.
Sans perdre de temps, ils se dirigèrent vers la proche forêt marécageuse. Comme ils allaient atteindre la lisière, de sourdes détonations semblables à celles qu'auraient produites des bombes de gros calibre éclatèrent. Frank Reeves se tourna vers les collines où les volcans crachaient des gerbes de flammes de plus en plus épaisses. Là-bas, du côté des savanes, d'autres détonations, toutes semblables mais assourdies par l'éloignement, retentissaient également. Reeves fit la grimace. « Avec ces volcans qui ne cessent de pétarder, dit-il, j'ai l'impression depuis notre arrivée que le monde va exploser. » Le professeur Hunter se mit à rire. « Soyons rassurés à ce sujet. Nous sommes bien placés pour savoir que le monde n'a pas explosé. » Bob, lui, ne dit rien. Mais une sorte de malaise s'était abattue sur ses épaules. Les colères de la nature, contre lesquelles l'homme, malgré toute sa science, demeure impuissant, l'avaient toujours impressionné. Et devant elle, il se sentait comme pieds et mains liés face à un ennemi redoutable. Le Français et ses compagnons avaient pénétré dans le marais et marchaient maintenant entre les troncs de fougères géantes et de calamites. Parfois, il leur fallait contourner de grandes étendues fangeuses au bord desquelles campaient des colonies de pnédactyles. À un moment donné, ils parvinrent à une sorte de large ravin aux pentes abruptes et dont le fond, 20 mètres plus bas, était rempli d'eau, croupie, couverte de moisissures. « Nous ne sommes pas passés ici en venant, déclara Hunter. Sinon, nous nous en souviendrons de ce ravin. »« Je ne m'en souviens guère non plus, dit Bob. À mon avis, je suis passé plus au nord. » Frank Rivers eut un haussement d'épaule. « De toute façon, ce ravin ne doit pas s'étendre sur une bien grande distance, sinon il nous aurait arrêtés auparavant. Dirigeons-nous donc vers le nord afin de le contourner. Nous ne devrons pas nous donner cette peine, dit Moran, en tendant le bras vers la gauche. Le hasard nous a construit un pont. À quelque distance, un arbre gigantesque, mort de vieillesse sans doute, s'était abattu par-dessus le ravin. Les trois hommes s'en approchèrent pour se rendre compte que le tronc était à demi pourri et dévoré par des plantes parasites qui pendaient en longues guirlandes. « Je me demande si cette vieille souche ne va pas céder sous nos pas, » dit Hunter. Bob Moran secoua la tête. « Soyez sans crainte à ce sujet, professeur. Il faudrait au moins le poing d'un grand dinosaure pour qu'il se brise. » Déjà, le Français s'était avancé sur le tronc. Il parvint sans encombre sur l'autre bord du ravin, où quelques minutes plus tard, Frank Reeves et Hunter venaient le rejoindre. « Continuons à nous diriger vers l'ouest, » dit Moran. « De cette façon, nous ne manquerons pas, après avoir traversé ces marais, d'atteindre la savane. Une fois là, nous n'aurons aucune peine à nous orienter. J'ai soigneusement repéré l'endroit où doit se matérialiser le cylindre. » Nous aussi, fit Hunter. De ce côté, nous ne courons aucun risque et, comme je vous l'ai dit, l'appareil est incapable de se déplacer dans l'espace et doit se matérialiser infailliblement au même endroit. Les trois hommes se remirent en route en silence. Le physicien s'était taillé une canne avec une branche et s'en aidait pour marcher. Durant une nouvelle demi-heure, ils avancèrent ainsi, prêtant l'oreille au moindre bruit qui aurait pu déceler l'approche de quelques ennemis. Tout d'un coup, Moran, qui marchait en tête, s'immobilisait et de la main fit signe à ses compagnons de s'arrêter. Respirant à peine, ils prêtèrent l'oreille et bientôt des sons leur parvinrent. Des sons qui n'avaient rien à voir avec ceux de la forêt et du marécage. C'était une série de tintements brefs et répétés, comme si quelqu'un se trouvait occupé à heurter du métal contre du métal. Puis, à ces bruits, d'autres se superposèrent. Des bruits plus sourds, plus modulés. Moran, Reeves et Hunter échangèrent des regards dans lesquels l'incrédulité et la joie se mêlaient étroitement. Car ces bruits sourds et modulés, ils venaient de les reconnaître. Des bruits de voix humaines.
Les voyageurs temporels rencontrent Bill Ballantyne, Clérambar et Spring, qui sont arrivés peu de temps auparavant et qui ont commencé leur voyage dans la direction indiquée par Bob. Les six aventuriers retournent en direction de la machine à voyager dans le temps. À un certain moment, Bob croit remarquer dans le ciel une sorte d'objet argenté, vaguement lumineux, mais cet engin disparaît très vite. Une éruption volcanique ayant entraîné un feu de forêt inattendu les empêche d'y accéder. Ils prennent la fuite, arrivent sur le rivage en bordure de la mer et se réfugient sur un îlot. À leur retour, ils découvrent que la machine a été dégradée par les effets de l'éruption. Elle est inutilisable. Et à supposer même qu'on puisse la remettre en état, on manquerait d'énergie pour la faire fonctionner. Soudain, l'engin que Bob avait aperçu quelques heures auparavant se matérialise devant les aventuriers. Il s'agit d'une machine à voyager dans le temps, créée par des explorateurs temporels du 25e siècle. Le capitaine Louis Craig, chef de patrouille de la patrouille du temps, ramène les naufragés du temps au 20e siècle. Frank Reeves, Hunter et Michael aux États-Unis, et Bob, Bill et Aristide à Paris. Les trois amis se rendent au domicile de Bill, qu'est Voltaire, et découvrent que Louis Craig les a déposés au moment même où Carlotta venait de rencontrer Bob à son domicile, exactement au début du roman. Merci Philippe, merci Pierre, à très bientôt pour de nouvelles lectures. Notre émission est maintenant terminée, voici la citation du jour, « La peur est mauvaise conseillère ». Elle est d'Henri Verne. Dans Bob Moran, le tome 24, Le Temple des Dinosaures. C'est en BD. Vous retrouverez toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union Régionale fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Bonne journée à tous.
Bonne journée, au revoir à tous.